On recommence. Paye Dalet Amoud Bet. Vous avez payé Dalet Amoud Bet. Trois lignes avant la fin. Matzabatinok. C'est une Mishnah dans Maseret Machshirin. On a trouvé un enfant mouchard jeté dans une ville où il y a des Israélites, où il y a des Akoum. Et on a trouvé un Tinok jeté. Si la majorité c'est Akoum, on se comporte avec lui comme un Akoum. Il revient Israël, Israël. Si la majorité d'Israël, Israël, Mertsan, Mertsan, on donne Eden Israël. Alors, on revient ici. Alors, Im Peihei Amud Alef, la troisième ligne. Im Rov Kutim Kutim. Si la majorité c'est Akoum, on lui donne une Akoum. Amarav Papa, la Achilon et Vilot. On peut lui donner à manger une villa. Si c'est moitié Akoumati juif, ça fait que de Raïta la Khumra. Et si la majorité c'est Kouti, donc on dit, mais c'est un Kouti, on mange d'après la majorité, on peut lui donner à manger une villa. Imravi Israël Israël, majorité Yid c'est Yid, le Mahil Khata, l'Arsir l'Amida, pour lui rendre une Amida. Mertsal Mertsa, on n'est pas obligé de rendre la Amida parce qu'on dit Hamotzi Mechavero, à la Varaya. Mertsa Mertsa Israël, le Mahil Khata. Amarech Lakish, les Nizakin. Quand il y a un dégât. Et Redam, comment ça se présente le cas? Iné, Medenakre, Toura, Didan, le Toura, Didei. Si notre taureau a cogné son taureau, Neitera, Ivenishkol. Il faut qu'elle apporte une preuve pour encaisser. Comment tu dis, Mertsal, Mertsa, il indigne Israël? Si notre taureau a cogné son taureau, et ça fait que si lui il est Israël, il faut lui payer. S'il est Akumba, donc dans le doute, il ne faut pas payer. Comment tu dis, Mertza, Mertza, l'indigne Israël, il faut payer. Pourquoi? L'on serait le contraire. De Nakre Toura Didei, le Toura Didan. Son taureau a connu un autre taureau. Donc s'il est Israël, il doit payer. Si son taureau, il a cogné un autre taureau, il doit payer la moitié. Parce qu'un Israël paye un Israël pour le taureau qui cogne la moitié. Si lui, il a Akoum, il doit payer entièrement. Maintenant, il y a un Safek. Alors, l'autre, il y a un Akre Toura Didei, le Toura Didan. Et donc, Palgeya la moitié, il doit donner. Parce que soit qu'il est Akoum, soit qu'il est Israël, il doit payer la moitié. Il est Palga, mais l'autre Palga, il n'est pas obligé de payer. Parce qu'il peut dire dans le Safek, il peut dire que je suis Israël, et l'Israël ne paye que la moitié. Donc, dans le doute, il doit payer que la moitié. Donc, il peut dire pour le reste, Aïtera de la Israël, Navechkol. Alors, comment c'est maintenant un din si, je vais prendre un exemple, il y a des Juifs, non, pas des Juifs, il y a des gens qui viennent de Russie en Eretz Israël. Et tu ne sais pas s'il est Israël ou s'il est Akoum. Et la majorité des gens en Russie sont Akoum. Maintenant, ce qui vient, quel est le dîn? La majorité qui vient, c'est des juifs? Peut-être oui, peut-être non. Peut-être la majorité était des goy. Alors, même dans l'hypothèse que la majorité est juive, on lui dit les yachso, non. Vis-à-vis des yachos, qu'on a trouvé dans la rue, même si c'est Rov Israël, c'est les yachso, si pour marier une femme, il faut qu'il refait les guéroutes. Donc, les gens qui ne peuvent pas prouver qu'ils sont yid, même dans l'hypothèse que la majorité qui vient, c'est yid, il faut pour mariage, il faut refaire un guéroute. Donc, il n'y a pas de témoins. Maintenant, quel genre de témoins il faut? Est-ce qu'il faut deux témoins ou est-ce que ça suffit un témoin? Et c'est un témoin, est-ce qu'il doit être un yid religieux ou est-ce qu'un juif pas religieux peut témoigner? Ou un témoin que je ne sais même pas, sur lui aussi, je ne sais pas s'il est yid. Il arrive de Russie, hein, il dit, voilà, lui, c'est un juif. Et quand il dit juif, est-ce que tu sais quel genre de halakha juif, que sa mère était juive et sa grand-mère, sa grand-mère était juive? Ou tu dis simplement juif, j'ai entendu, on appelait juif, mais peut-être on appelait juif parce que son père était juif. C'est des grands
Mais
problèmes.
quelqu'un qui vient qui dit qu'il est juif,
Oui.
quelqu'un qu'on ne connaît pas, il vient de n'importe quel pays du monde, il dit qu'il est juif, on le croit ou on ne le croit pas.
Pour marier une femme,
Pour marier une femme.
Il me semble que marque dans Rambam que s'il vient de Chutz Laaretz, on ne marie pas une femme s'il dit. Quand la Gemara nous dit qu'un homme qui vient et dit je suis juif, on lui croit. D'abord, la Gemara parle dans un cas où, quand il dit juif, il est obligé de faire Shabbat et Kashrut, sinon il reçoit Malkout. C'est-à-dire, à l'époque de la Gemara, un homme qui dit je suis juif, ça l'engage de faire les mitzvot, sinon il a tous les problèmes. Il ne peut pas rentrer dans la société juive, il serait éjecté. Il fait un issour, il va se faire mettre en idouille. Donc, de dire je suis juif, un goy qui dit je suis juif, si. Il veut pas faire tourner. Mais dans un pays, dans une époque, dans une société où un homme qui dit je suis juif, ça ne le coûte rien du tout, ça ne l'oblige pas de faire ni Shabbat ni rien du tout. Et en plus, le contraire, ça peut apporter d'allocations familiales, ça peut donner des avantages. Donc le fait de dire juif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire. Si quelqu'un part de Russie, parce que la Russie, les conditions de vie, etc., ils n'étaient pas très. Et en Eretz, la vie, elle est plus ouverte, il y a beaucoup de qualités. Un homme, il arrive et il dit, je suis juif, ça ne veut rien dire. Alors, il faut des témoins sur lui. Alors, il
faut des témoins. Et s'il dit, je suis Cohen.
Mais chacun peut dire, je suis Cohen, ça ne coûte rien. Ça lui coûte, il peut m'attamer les métimes. Aujourd'hui, un Cohen qui part en Eretz, il veut toucher un mort. Eh bien, il peut toucher un mort, personne ne l'empêche. Les rabbins ne peuvent pas l'empêcher, l'État ne l'empêche pas, ça ne coûte rien du tout, ça ne mange pas du pain, comme on dit. Ça n'engage absolument rien, ça lui donne des avantages, des allocations, ça lui donne des avantages, un passeport, et plein de choses. Mais il n'est pas, le judaïsme, il peut manger Khazir Yom Kippour, et personne ne va lui dire un mot. Maintenant, il veut se marier en plus avec une femme juive, même si la majorité est juive. Il me semble qu'il doit, à plus forte raison, cette halakha, un homme qui dit je suis juif, on lui croit qu'il est juif. Sur quoi on va se baser aujourd'hui? Mais plutôt, Ramsès, il arrive un homme d'Inde, il dit je suis juif, il arrive un homme en Corée du Sud, je ne sais pas, je suis juif. Mais plutôt que je lui crois, un homme, il va venir en France, on va prendre comme ça. Un homme, il arrive en France, il est à la frontière, bonjour, bonjour, vous voulez quoi? Je rentre en France. Vous êtes qui? Je suis français. Vous avez un passeport? Non. Pourquoi pas? Je l'ai perdu. Vous êtes français? Oui. Votre père? Français. Comment il s'appelait? Comme ça. Vous avez des papiers? Non. Votre mère est française? Oui. Vous avez des papiers? Non. Vous êtes inscrit quelque part? Non. Vous avez des témoins que vous êtes français? Non. Alors vous voulez quoi? Je veux un passeport français, je vais recevoir l'allocation familiale demain. Il va dire quoi le ministre de l'Intérieur? Elle est bien bonne cela. Vous allez passer une procédure de francisation. Peut-être on va vous accepter, vous allez apprendre le français. Vous allez apprendre Louis XIV quand il était, et on va voir après 2 ans, ou 3 ans, ou 5 ans, je ne sais pas quoi, on va voir si on veut vous accepter. Ah non, non, mais je suis français. Mais on ne vous croit pas, monsieur. Pourquoi je vous croirais? Mais pourquoi je mentirais? Pourquoi tu mentirais? Parce que justement, tu veux recevoir les droits des Français. C'est l'avdil, l'avdil, c'est comme ça chez les Goyim, c'est comme ça. Et pourquoi chez nous, les Juifs, ce serait autrement? À l'époque de la Gemara, un homme, il dit, je suis juif. Mais monsieur, vous savez qu'est-ce que c'est juif? Il voit la société juive. Mais, et encore, ben, pour mariage, on nous sommes, on va continuer. Mishenafla alav mapolet. Quelqu'un sur qui est tombée une mapolette. Maïka Amar. Maïka Amar. On avait vu, on revient à la Mishnah. La Mishnah était Pei Gimel. Michel Alaf Mapolet. Oui, ce qui est tombé sur lui en Mapolet, ça fait Kusham, ça fait Enosham, ça fait Khaï, ça fait Kmet, ça fait Kuti, ça fait Israël, mais Fakhim Lavetagal. Donc il y a 3 doutim. Alors, on dit Maïka Amar. Quel est le sens de la Mishnah? Le sens de la Mishnah est comme ça, l'Omibaï Kamar. La Mishnah marche dans le système de l'Omibaï. L'omibaï, ça fait Kusham, ça fait Kenosham, pas seulement s'il y a un doute, si la personne est encore là-bas ou pas. Dit Ite, parce que s'il est au moins Chai, ou si je suis sûr qu'il est vivant, me fakrin, et la philo, ça fait Chai, ça fait Kmet, même que c'est possible que quoi. C'est-à-dire, imaginons-nous que le type sous les décombres, il parle. Il dit, oui, je suis vivant. Alors, maintenant, j'ai un safek. D'abord, j'ai un safek s'il est là-bas ou pas. Et même s'il est là-bas, Je ne sais pas s'il est vivant ou mort. Si j'avais été sûr qu'il est vivant. Si j'avais été sûr qu'il est vivant, d'accord. Mais si je ne savais que s'il est mort, ça ne s'explique pas. Mais l'homme est bas et ça fait que ça fait mettre d'Israël. Et pas seulement si ça fait que ça fait Israël. Et puis, ça fait coûter, ça fait Israël, mais Fakrim. Donc, ça fait 75%. Non, ça fait 12% et demi. On avait fait hier le calcul. Premier, ça fait que fait 50-50. Deuxième, ça fait que 25, 75. Troisième, ça fait que c'est 12,5. Quel est maintenant le dîne s'il y a un quatrième doute? Imaginons qu'il y a un quatrième doute. Et je vais diviser les 12,5 en je sais pas quoi, en 6,25. Alors, est-ce que ça aussi, comment on peut trouver un cas d'un quatrième doute? Est-ce qu'il existe un cas d'un quatrième doute?
Peut-être ça fait que si on arrivera à enlever les pierres ou pas. Peut-être que les pierres sont tellement lourdes qu'on n'y arrivera pas à les lever. Est-ce qu'on peut tenter ou on dit non? De toute manière, ça va être une toéa pour rien du tout puisqu'on n'y arrivera pas. Ça fait un safek de plus.
Ouais.
Ou est-ce que en enlevant les pierres, on risque pas d'aggraver encore plus la chose et de faire un éboulement complémentaire?
Alors ça, ce que vous dites, la docteure Danon, ça c'est une question, ça c'est une question fondamentale. L'Echora, il y a une halakha, un gossesse, on n'a pas le droit de bouger. Oui, un homme qui est agonisant, il faut pas bouger. Pourquoi? C'est marqué, ce qui est mésis ever de gossesse, haréhu que shofech damim, parce que le fait qu'on le bouge, ça peut pas le droit de bouger. Pour le chat, si ça, il faut pas bouger. Maintenant, chaque homme qui fait une crise cardiaque, on lui fait un massage cardiaque. Alors, des fois, il est gossesse, matzav gossesse. Donc, on n'aurait pas dû avoir le droit de bouger. Alors, est-ce qu'on a le droit de faire un massage cardiaque? Alors, on peut prouver de la Mishnah que oui, justement, grâce à la preuve de M. Danon. La Mishnah nous dit que quoi, que j'ai le droit d'enlever les pierres. Mais il se peut qu'il est en dessous. Peut-être il est matzav gossesse. Et le fait que j'enlève la pierre, ça peut le bouger. Et si tu vas dire que bouger, c'est comme shefer damim, et ça fait que retzicha le chumra, donc on aurait dû dire qu'on n'a pas le droit de quoi? D'enlever les pierres.
Ce n'est pas tout à fait la même chose, parce que le massage cardiaque, il ressuscite les morts.
Mais ils peuvent aussi tuer les vivants.
Ah non, le massage cardiaque ne va pas tuer un vivant.
Mais si les gossesses, et on dit qu'on bouge, c'est comme Retzicha, parce que ça ressemble à l'expression de la Gemara. L'image de la Gemara, c'est qu'une bougie, avant d'éteindre, et quand la flamme est tout petite, dès qu'on touche, clac, ça s'éteint. Donc c'est
Oui,
pour
mais
ça qu'il ne faut pas toucher un
quand
gossesse.
on bouge un ever quelconque et ça ne va pas agir sur. Tandis que le massage cardiaque, ça agit vraiment sur la vie. C'est.
Mais peut-être quand il va le faire la première fois qu'il touche le bras, il va bouger un peu, clac, il est mort. Peut-être maintenant, il fallait sortir.
Et ben, le massage qui va continuer va le ressusciter.
Mais imaginons-nous que pour faire le massage, il faut d'abord le bouger. Des fois, il faut le bouger. Et même si on a enlevé les pierres, disons, d'abord on enlève les pierres, il faut ouvrir la chemise, il faut le mettre dans une position. Alors, il y a des fois plusieurs gestes à faire avant qu'on peut arriver à faire le massage. Tous ces gestes-là, la Mishnah moukhar, que c'est moutard. La Mishnah nous dit, mais fakrin lavetagal, on peut enlever la pierre. Quand j'enlève la pierre, des fois, je dois le bouger. Et tout ça c'est permis. Pourquoi ben mettre c'est permis? Parce que la kavana, c'est d'essayer de le sauver. C'est-à-dire que c'est comme quelqu'un qui fait une opération, un médecin qui fait une opération. Et il se trouve devant les dilemmes. S'il fait l'opération, c'est qu'il tout double. Si elle réussit, il a sauvé. Et s'il réussit pas, c'est il a tué. Alors, est-ce qu'on fait l'opération? Alors, s'il n'y a rien d'autre à faire que ça, on le fait. Aïe, peut-être il le tue. Mais, je n'ai pas le droit de tuer. Mais si ma kavana maintenant de le sauver, cette kavana donne un caractère de sauvetage. Ça ne s'appelle pas un caractère d'assassinat. Ce geste s'appelle un caractère de sauvetage. Donc, pour le massage cardiaque aussi, badaï, c'est un caractère, s'il y a une chance, s'il y a une chance, c'est un caractère de sauvetage. C'est ça le sens de la Mishnah. Moi, j'ai dit, ça, c'est une preuve pour la Rabbi Kvega. Rabbi Kveger Shulchan Aruch, il dit que si un incendie dans une maison, et il y a un malade et il est gossesse, est-ce qu'on a le droit de le transporter en dehors de la maison? Alors, il dit que oui.
Mérila, c'est quoi gossesse? C'est quoi la traduction gossesse?
Agonisant.
Ah, ok.
Alors, est-ce qu'on a le droit de l'enlever dans une autre chambre? Alors, il dit que oui, quel est le pshat. Mais on avait dit qu'on n'a pas le droit de le bouger. Mais bouger, ça peut être un retzicha. Mais les tirotzilés, ça s'appelle un geste de sauvetage, étant donné qu'il est dans le feu. Et là-bas, c'est vadaï. Et si je l'enlève, parce que le klal, il est rov gossesim le mita, on met autant le chayim. Mais si ça, c'est pas décidé. Rov, la majorité des agonisants, c'est, il va de l'autre côté. Mais il peut arriver dans ce côté encore. Donc, dans l'incendie, ça va sûr aller vers le fin. Et si je le bouge, je l'amène ici, je le sauve du feu, peut-être il va survivre. Donc, ça s'appelle un caractère de sauvetage. Donc, ce que Rabbi Kveger dit, c'est Mouchar de notre Mishnah.
Ici, il est mort.
S'il est mort, oui. Alors, qu'est-ce que tu demandes? On appelle la Chevra. Je n'ai pas compris ta question.
S'il est mort, on peut le sauver du feu?
Ah! S'il est mort, si le corps est mort et qu'il y a un incendie, est-ce qu'on a le droit de sauver du feu?
On fait comme tous les morts. On met du pain dessus ou un tinoc et on le soulève.
La suite de la Gemara.
Manir alav kikoro tinoc devant le feu. Ça, c'est une générale mortos daf mem gimel. Vous l'avez fait ça dans Dafayomi. Vous êtes où dans le Shabbat?
Dans Dafayomi, on est samer gimel.
Alors, vous l'avez déjà passé alors. Ouais. Madame. Bahul al-Mamounou. C'est Daf Mem Gimel, non? Tanaï, En Matsilin et Tamet Mipne Adlika. On n'a pas le droit de sauver les morts devant un incendie. Amar Rabbi Yehuda ben Lakish, Shamati, Shematsilin et Tamet Mipne Adlika. On a vu, il a le droit de sauver. Eichedami, comment ça se présente? Idi ke kikarotinok. Si on met un enfant, un morceau de pain sur lui, il t'amène le Tanaka, mais pourquoi le Tanaka est interdit? On dit pour un mort, on a le droit de mettre un kikorotinok sur lui, on peut le déplacer. Ça repose moukhtse. Ideleke, s'il n'y a pas d'enfant, ou un pain, maïtam et rubinakish, l'alabetil dominatsat pli, et le marsantil mensachmetil, tu veux dire indirectement. L'eau. Le kouralmentil mensachmetil, tu le vas, et le rubinakish, et toi, chadam parou l'almeto, parce que non, il panique pour son mort, il le charrette les à télékhibouille. Si tu ne permets pas de déplacer, il va éteindre. C'est comme ça, la halakh, il domine la kish, bémet. Et quoi, on a permis de, s'il n'y a pas de kikorotinok, on peut le déplacer, transgresser isomukhtse, parce que si tu ne permets pas l'isomukhtse, il va déplacer, il va éteindre le feu, parce qu'Adam Mahoul, Bahoul Al-Meitou. D'ailleurs, de cette gemara, on voit quelque chose de fun, on voit quelque chose de tastique. Les gens posent la question. Tout le monde sait qu'on n'a pas le droit à ce shalom de incendier, de. Un mort. Comment ça s'appelle? Ce mot, pas incendie. Comment ça s'appelle?
Incinéré.
Où c'est marqué? Bon, il y a plusieurs macorotes. Où c'est marqué? C'est marqué dans la Torah qu'il faut mettre en tiré. Et incinéré, c'est grave. On va ici dans le Gemara. Qu'il y a le feu qui vient, on permet son moukhtse. Parce qu'il y a Adam Mahoul, Bahoul Al-Meto. Et d'où c'est bien ce Bahoul Al-Meto? C'est une folie. Le Bahoul al-Meto, c'est une idioterie, ou c'est parce que dans le peuple juif, c'est tellement incarné qu'un mort doit être mis sous la terre. La mitzvah de Kvour, elle est tellement forte, c'est tous les juifs, ils le savent, qu'on ne peut pas s'imaginer une chose comme ça. Il va éteindre le feu, il ne pourra pas résister. Ça qui est marqué dans le Gemara. Si par exemple, c'est en Chine, hein, si cette scène se passe en Chine, est-ce qu'aussi il faut permettre de déplacer les morts parce que le Chinois, il est Bahoula al-Meto, il va éteindre le feu. Au contraire, il va dire tant mieux, comme ça coûte, il n'a pas besoin de payer une place de cimetière. C'est dans le peuple juif, c'est Adam Bahoula al-Meto, c'est pas possible, un juif ne peut pas voir une chose comme ça, et le corps il sera incinéré. Bon, il y a beaucoup de macorotes. Alors, où nous sommes? Il y en a un qui m'a demandé. Les gens qui sont à Auschwitz, qui étaient incinérés, comment Kadosh Baruch Hu va faire triatémitim? Alors je lui ai demandé, et les gens qui sont enterrés, comment Kadosh Baruch Hu fait triatémitim, tu peux m'expliquer? Quand tu m'expliqueras ça, tu expliqueras l'autre chose aussi. Alors, on va continuer. Mais c'est ici, mais qu'est-ce que je suis bête? Mais c'est le prochain morceau de Mara. Mais c'est le prochain morceau de Mara. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va continuer. Matsu Chai Pshita. Il est marqué dans Mishnah Matsu Chai. Si on le trouve vivant, on le fait sortir. Où c'est marqué dans la Mishnah? C'est marqué dans la Mishnah. Matsu Chai Mefakrin. Vimet Yadihu. Si on le trouve vivant, Mefakrin, on enlève les pierres. Dès que tu trouves qu'il est vivant, Mefakrin, on enlève les pierres. Imet, si on voit qu'il est mort, Yadihu, on le laisse là-bas jusqu'à Motsé Shabbat. Alors le Gemara demande, Matsu Chai Pshita, c'est pas sûr qu'on enlève. L'Echora, quelle est la Kusia? L'Echora, il y a un grand chidouche. Parce que j'aurais pu croire, on le trouve vivant, mais il est agonisant. Et en agonisant, on n'a pas le droit de bouger. Donc j'aurais pu croire, je n'ai pas le droit de me faqueach, que je peux le faire sortir. Et la maïs, ce n'était pas chaud pour la Gemara aussi. Ce n'était pas chaud pour la Gemara que quoi? Que ça s'appelle par Tzicha, qu'on a le droit de le sortir. Alors, la Gemara, elle demande, pshita, c'est pas chaud qu'on peut le faire sortir. On parle dans un cas où il peut vivre que quelques instants. Ça veut dire je peux lui allonger la vie pour 5-10 minutes. Donc j'aurais pu croire, on ne peut pas mechaler le Shabbat pour ça. Peut-être le din de mechaler le Shabbat, c'est seulement si on peut lui donner une vraie vie. Mais si c'est pour lui donner quelques minutes ou une demi-heure à vivre, peut-être on n'a pas le droit de mechaler le Shabbat. Et quelle est bien la logique? Pourquoi bien on a le droit de mechaler le Shabbat pour Chayesha? Parce que Chayesha, c'est aussi une vie. Une vie de 120 ans, ou une vie de 10 ans, une vie de 10 minutes, c'est aussi une vie. C'est une vie de 10 minutes. J'aurais pu croire que ça s'appelle, c'est pas Chashuv, que c'est une vie Chashuv. 10 minutes aussi, c'est Chashuv. Et pourquoi 10 minutes, c'est Chashuv? Est-ce que c'est parce qu'il est conscient, il peut faire une fila, il peut faire un vidouille, il peut faire Shema Israël? Et imaginons-nous qu'il est au coma. Et imagine qu'il est au coma et on ne peut plus rien faire. Et il va
mais
pas
toi, se
est-ce mais que toi, dans ce cas-là, on a marché le Shabbat pour donner Chayesha?
Mais nous, on sait pas. On ne sait pas si ça va être Chayesha. Peut-être que ça va être beaucoup plus.
La Gemara est un peu difficile, docteur Hervé.
Pourquoi?
La Gemara nous dit. Pourquoi? Alors, je te l'explique pourquoi. Parce que la Gemara nous dit. Quel est le chidouche de la Mishnah? Le chidouche, il est le filou Chayesha, même si c'est pour Chayesha. J'aurais pu croire que tous les dîners de Chilou Shabbat, c'est pour Chaya Olam, pour une longue vie. Pour une bonne courte vie, on ne peut pas marcher le Shabbat, que machin, même une courte vie. D'après toi, que tu dis qu'on ne peut jamais savoir si c'est une courte vie ou une longue vie, la Gemara n'a pas de sens. Quel est le chidouche de Chilou Chaya Sha'a? Étant donné que tu dis, peut-être c'est automatiquement Chaya Olam. Dans ce cas-là, ce n'est plus un chidouche. Si tu dis que dans un chay, chaque shva, chaque vie, il y a un safek si c'est chay olam chay sha'a, donc c'est un safek, donc il dit un safek, tu peux me chaler Shabbat. Pourquoi j'ai besoin de la Mishnah me dire, même le chay sha'a, étant donné que chaque chay sha'a peut être chay olam. Et la maï, la Gemara nous dit ici que je sais que c'est chay sha'a. On ne raisonne pas avec tes raisonnements que tu dis chaque fois, peut-être. On dit que le fiel matzav, c'est chay sha'a. Celui-là, selon nos connaissances, il ne peut pas vivre plus que 10 minutes.
Mais ça lui donne l'occasion de faire une misva quelques minutes de plus.
C'est ça que j'ai dit.
Alors, la misva étant Brit Kodesh. Parce qu'il y a une misva, d'être circoncis, d'être mahoul. Donc il est mekayem et misva. Comme David Ameler dans son bain, il a vu la misva.
Et je reviens à ma question. Vous voulez répondre que j'ai dit que s'il est au coma, on sait que dans 10 minutes, il va quitter le monde et on ne peut pas le sauver. Chayesha, les 10 minutes, et il est coma. Vous dites, on peut quand même sauver parce que quelle mitzvah il fait? Il fait la mitzvah d'être mahoul.
Mais même nous, on fait une mitzvah, non, de sauver une vie. Sauver une vie d'une heure ou sauver une vie de 100 ans, c'est une mitzvah.
Non, mais c'est la question du biro halakha.
C'est la même mitzvah.
Doucement. Plus tard, on verra dans la Gemara qu'il y a tout on sait que Pikuach Nefesh Dochet samedi. Alors, il y a beaucoup de limoudim. Un des limoudim, c'est Chalel Alav Shabbat Achat, Kedei Shishmor Shabbatot Harbe. Mieux vaut faire un Chilul Shabbat pour lui une fois, afin qu'il gardera encore plusieurs Shabbatot. C'est-à-dire que si je vais lui sauver la vie, il va garder encore beaucoup de Shabbatot. La Torah nous dit mieux vaut qu'une fois le Shabbat, il se mette en retraite. Le Shabbat, il permet qu'on le profane. Comme ça, ce juif-là, il est sauvé. Il va faire encore beaucoup de Shabbatot. Donc, le Shabbat, il sera plus honoré. Donc, le Bior Halakha demande. Ça, dans quel cas je dis il va garder plusieurs Shabbatot, c'est quand il est conscient. Mais s'il est au coma, il ne peut plus faire des Shabbatot. Donc, il va jusqu'à la fin de sa vie, il va rester au coma. Alors, j'ai rien gagné. Est-ce que dans ce cas-là, on peut mechaler le Shabbat? Alors, il y a plusieurs limoudim dans la Gemara. Il y a un limoud parce que Chaviv Nefesh Israël. Chaviv Nefesh Israël. Pas parce qu'il fait des mitzvot. Le fait qu'il vit, ça peut-être, ça ressemble un petit peu à ce que le docteur Beressi a dit. Le fait qu'un juif, il vit et il est mahoul, ça, c'est une valeur. C'est une valeur. Un juif mahoul, il vit dans le monde, c'est une valeur. Même si lui n'est pas conscient. Le Maaseh le Bior Halakha dit comme ça. D'après ma mémoire, le Bior Halakha dit que même s'il est, il est au coma, on peut vivre Mechalel Shabbat. Il me semble, regardez. Il est où le Bior Halakha? Chien Kaftet. Kol Pikuach Nefesh Doche Samvi. Ah, voilà. Voilà, Chien Kaftet. Si vous avez Chien Kaftet, Saif Doles. Saif Dalet. Alors. Afilo metzou merutzatz, même s'il le trouve écrasé, il ne peut vivre qu'une heure, une demi-heure, mais fakrin, on peut quand même enlever les pierres. Au bout de qui il a trop de mots, on vérifie jusqu'au nez, en la narine, il me l'aurait dit, je veux trop de mots, asva de metzi, on n'a plus de vie, on le laisse. L'oshna pagou barosho, trila, l'oshna pagou baraglav trila, ça ne dépend pas si on a commencé à les trouver les pieds ou on a trouvé la tête. Quand le nez, il n'y a plus de respiration, il n'y a plus de respiration. Alors ici, il y a un long Bior Halakha. Le fils a. Alors, je dis le Bior Halakha. Afagav de l'Oshaï Chachatam, Chalel Shabbat, Achakdish, Ishmor Shabbat, Otarbe. Ici, ça ne marche plus la raison. On ne va pas le Shabbat pour qu'il garde beaucoup de Shabbatot, parce qu'il ne va plus vivre le Shabbat prochain. Parce qu'après 10 minutes, c'est terminé. Mishum de l'âme d'Afke Shabbat, ou Adin Shar Mitzvot. Ça ne change pas. Kedeshish mort beaucoup de Shabbat. Pour mettre en tefillin aussi, imaginez-nous, on va le trouver, il peut vivre encore 2 jours. Jusqu'au prochain Shabbat, il ne peut pas vivre, mais il peut vivre encore 2 jours. Donc, demain, dimanche, il peut encore mettre les tefillin. Ça aussi, Kedeshish mort une partie de la Torah. Moi, je katav ha-mi'iri. Comme à l'al-mi'iri, dit Afil Shahat, Shebota, Shah, Yashu, Belibo, Bietvade. Peut-être dans son cœur, il fait tshuva. Comme ça, le mi'iri dit Pshat. Même s'il ne peut plus parler, si tu lui sauves la vie, dans la dernière minute de sa vie, il peut encore faire tshuva. Omnom, Bior Halakha, il dit, ça c'est un tam ba'alma. Mais même s'il ne peut plus faire, voilà sa question. Si je prends le Meir et Kipshuto, c'est parce qu'il peut faire vidouille dans son cœur. Dans ce cas-là, s'il est inconscient, s'il est au coma, il ne peut plus faire vidouille. Donc on aurait dû dire, on ne peut pas mettre le Shabbat. Alors Mishtebrou, il dit non. Quand le Meir, il dit ce tam, le din ne dépend pas de tam. Bedin, il dépend s'il est vivant. Il a tam de dachin mitzvot pour faire beaucoup de mitzvot. Mais c'est parce que pour la vie d'un juif, parce qu'il y a un autre pasuk, il y a une autre raison, il y a un din de la vie d'un juif, pour la vie d'un juif. Mais ça, c'est le long Bior Halakha. C'est aussi on lui sauve la vie. Maintenant, la question, elle est, s'il souffre, quel est din s'il souffre? Un homme qui souffre et qui dit, ne me sauvez pas. Un homme qui est blessé d'une façon, qui dit qu'il veut quitter le monde. Et on dit, on peut vous faire des soins, et les soins vont vous aider pour continuer une journée. Elle lui dit, ne le faites pas, je ne veux pas. On a le droit de le faire les soins. Est-ce qu'il est obligé de faire les soins? Est-ce qu'il est interdit de faire les soins? Ah, c'est la grande question. Alors, le chasse, que si ça va d'ailleurs que non, ça marque sur un amour. Si au moment de qu'il agonise, au moment qu'il agonise et qu'il y a quelque chose qu'on peut le maintenir en vie, on n'est pas obligé. Même si quelques étapes, comme on avait déjà parlé de ça, quelques étapes pour empêcher les vibrations, pour empêcher la sortie de l'âme. On dit non, on peut lui dire arrête de taper pour que l'âme puisse sortir. On n'est pas obligé d'artificiellement continuer sa vie si sa vie c'est une souffrance. Mais la question elle est, est-ce qu'on doit lui donner, est-ce qu'on doit lui faire une opération? Quelqu'un, il a faim de sa vie, on peut lui faire une opération pour vivre encore un jour, deux jours. On n'est pas obligé de faire ça. Mais est-ce que les choses naturelles, on doit lui faire, donner respirer à l'oxygène et de l'eau? Est-ce qu'on doit lui donner à manger? Alors, on dit que les choses antibiotiques, il avait un doute, il paraît. Il est à la fin de sa vie, on ne peut pas faire grand-chose, on ne peut rien faire. Mais on peut lui donner, il a une infection, on peut lui faire un antibiotique pour allonger. Il paraît qu'il aurait dit qu'antibiotique, c'est devenu de nos jours comme un aliment, presque. Et les choses, les fonctions naturelles, il faut y faire, mais des opérations, des choses en dehors, on n'est pas obligé de faire. Mais quelle est bien la preuve qu'on est obligé de faire des choses élémentaires? Quelle est la preuve?
Déjà, même si on sait qu'il va vivre une heure, on le sort du trou.
Oui, c'est pas dans le cas, peut-être, où il veut. Mais dans le cas où il dit, je souffre trop, laissez-moi. Quel est le dîme? S'il dit, laissez comme ça, dans 5 minutes, c'est terminé. Si vous me sortez, je vais souffrir 2 heures. Et il dit, mieux comme ça. Quel est donc le dîme?
C'est mieux la vie, non?
Mais si lui, il dit que non, lui, il dit, il préfère non.
On l'écoute pas.
Que d'où tu
sais. Bien sûr qu'on l'écoute. Pourquoi on ne l'écoute pas?
Mais la vie, c'est mieux.
Si un homme, il dit qu'il ne veut pas tenter, on lui dit, voilà, on fait une opération, soit il meurt, soit il a 50 jours de plus. Et il dit non. Il veut avoir quelques jours dans le confort et il ne veut pas tenter. Il a le droit.
D'après la Torah, il a le droit?
Je sais pas. Quel est le dîme pour la prière? Quand un homme, il est malade et il souffre, et il demande de prier qu'il meure. Est-ce qu'on a le droit de prier qu'il meure?
La servante de Rabbi, elle a prié pour qu'il s'arrête de prier.
Voilà. C'est la preuve que la Rani l'apporte dans Darim Daf même. Que si on voit que l'autre il souffre et sa vie est plus de souffrance, les Chachamim là-bas, ils ont prié pour qu'Hachem le guérit. Et la servante, elle a vu la souffrance. Alors, elle a prié pour qu'il est niftar. La Rani l'a déduit d'ici qu'on a le droit de prier. Mais bon, prière, ça c'est une intervention magique. Mais est-ce qu'on a le droit de faire un geste pour accélérer? Ça c'est autre chose. Ça n'a pas le droit, les chorans. On n'a pas le droit de faire un geste pour accélérer. Tfila, c'est autre chose. Tfila, c'est autre chose. Mais est-ce qu'on est obligé de lui allonger la vie? Il ne veut pas.
Il y a les éléments de base et il y a l'acharnement thérapeutique. Ce sont deux choses distinctes.
Oui. Oui, acharnement, on n'est pas obligé de faire. Alors, je vous avais dit, mais les choses élémentaires, oui. Quelle est la preuve? Oui, c'est que les choses élémentaires, il faut.
Je crois que dans le désert à Kajwaoku, il nous a donné les choses élémentaires, l'eau et... l'eau là-bas, et la manne.
Mais là-bas, le bon Dieu, il a gagné bien. Là, les Juifs, ils ont bien gagné, ils ont bien vécu dans le désert. Alors, on va continuer. D'ailleurs, la machloket, la Rashi et le Rif, au sujet, quand ils ont sorti de la maison, etc., tout ça, c'est le Machaber, il apporte les deux chitotes. Je lis encore un Machaber. Matze Elionim Metim, lo yomar kvar metot tachtonim, le mfekir. Bon, ça, c'est le prochain morceau de Gemara. D'accord, bon, on va voir. Alors, on continue notre Gemara. Afilu lecha yesha, on peut machaler le Shabbat. Mais quelle est la logique? Mais il y a quand même. D'où je sais que le Bir Valacha a raison? Le Mir, il dit pourquoi on lui fait Chai et Shah? Parce qu'il peut penser dans son cœur de faire Teshuvah. Donc s'il est au coma, il ne peut pas. Le Bir Valacha, il dit quand même on peut. D'où le Bir Valacha, il le sait? Parce que c'est. D'où il sait? Peut-être non. Peut-être même s'il est au coma. Peut-être on n'est pas marqué le Shabbat pour lui.
On est dans le coma, quand quelqu'un il est dans le coma, Chas v'Shalom, il a peut-être un, je ne sais pas docteur, mais il a peut-être un peu de, je sais pas, de conscience, non? Ou c'est comme si qu'on était mort, je sais pas, dans le coma.
Mais c'est une mitzvah de sauver une vie, non? Pour nous, on ne parle pas du mort, pour nous déjà. C'est pas une mitzvah de sauver une vie?
Oui, Bien sûr. Alors, maintenant, on est Mechalel Shabbat. Maintenant, on parle ici les Mechalel Shabbat.
Donc, on a droit de sauver une vie Shabbat. Donc, si on veut faire une mitzvah, on l'a fait. On ne calcule pas si on n'aura pas plus de récompense si on sauve une vie de 100 ans ou de 90 ans. On a sauvé une vie.
Mais la Gemara nous dit ça. La Gemara nous dit, Matsu Chai, si on le trouve vivant, on peut déplacer les pierres. On peut Mechalel Shabbat. La Gemara demande Pshita. On va refaire la Gemara. Qu'est-ce qui est marqué ici dans la Gemara? Metsaoucha, ici on le trouve vivant. Fakrin et Tagal, on enlève la pierre. On enlève la pierre, il me faut chercher une pelle. Et c'est un chilou Shabbat. Il faut que je cherche la pelle dans la rue. C'est un chilou Shabbat. La Gemara demande Pshita. On a dit qu'on a droit de Mechalel Shabbat. On dit l'Otzricha tefilocha yesha. Il y a un chilouche. Il ne peut vivre que quelques minutes ou une journée. Donc j'aurais pu croire qu'on n'est pas Mechalel Shabbat pour la vie d'une journée. Et Mashmalan qui vit. Ça, c'est un chidouche. La Mishna nous dit que malgré que c'est une journée, on peut Mechalel Shabbat. Maintenant, il dit les Miri, à quoi ça sert? Alors, il dit les Miri, parce que dans cette journée, dans cette heure vie, il peut encore faire Teshuvah. Il peut faire une mitzvah. Parce qu'il peut penser faire vidoui. C'est-à-dire, le Miri, il a compris le coup, peut-être il ne peut plus parler. Il a encore 5 minutes à vivre, il ne peut plus parler. Alors, quelle mitzvah il peut faire? Alors, il dit qu'il peut faire la mitzvah de Tshuva dans son cœur. Voilà le Miri qui dit Pshat. Il arrive le Biur Halakha et il dit, mais qu'est-ce qu'on fait s'il est au coma? Il ne peut plus faire Tshuva. Alors, donc, le Chora, le Fia Miri, on ne peut plus Mechalel Shabbat pour lui. Alors, il dit, mais parce qu'il y a plusieurs limoudim plus tard dans la Gemara. Un limoud qu'il faut sauver la vie des Shishmor Shabbat au Tarbé pour qu'il puisse encore faire des Shabbat. Sur ça, le Bir Alakha, il dit, même si ce n'est pas Shabbat, même si c'est une autre mitzvah. Et sur ça, il dit, pas seulement si c'est une mitzvah, même si c'est une bonne pensée. La pensée de Tshuva, ça suffit aussi pour Mechalel Shabbat pour ça. Mais le Chora, d'après ce mandama, que des Shishmor Shabbat au Tarbé, s'il est au coma, le Chora, d'après ce mandama, on ne devrait pas Mechalel Shabbat. Il dit, le Bir Alakha, mais il y a d'autres limoudim. Il y a un limoud, v'chai b'hem v'loshi yamut b'hem. La mitzvah sont donnés pour la vie et ils ne sont pas donnés pour la mort. Donc, pour la vie, on peut Mechalel Shabbat. Indépendant s'il fait des mitzvot ou pas. C'est ça le chidouche du Bir Halakha. Vachai Bahem, le fait que les juifs, ils vivent, c'est pour ça qu'on peut Mechalel Shabbat. Donc, il dit, même au coma, on peut. Voilà, c'est ce que Bir Halakha dit. Alors, je pose la question. Et peut-être on peut poser une question. Et peut-être même Vachai Bahem, le Shiamot Bahem, c'est aussi lié avec ce que l'autre mandamar dit, que les Shishmor Shabbat au Tarbé. Peut-être que la logique dit que pour qui peut faire une mitzvah. Et s'il ne peut pas faire une mitzvah, pour cette vie, on ne peut pas faire le Shabbat. Le Mir al il fait une machloket. Bon, à la fin, il dit que même ce qui dit Shishmor Shabbat au Tarbé, c'est l'avdafka. Ce limout que pour qui garde beaucoup de Shabbat, c'est l'avdafka. C'est une raison, un ta'am. Mais la halakha ne répond pas à ça. Le Ikar, il est pour la vie, indépendant de mitzvah. Ah, peut-être on dit le contraire. L'Eikar, il sait pour qui peut faire un mitzvah. Les bien, la femme ne fait pas comme ça, mais quel est le Hechar? Pourquoi c'est pas sous là? Il est médaillé qu'un Lashon Rambam. Il est médaillé qu'un Lashon Rambam, c'est la vie. Il ne dit pas la mitzvah, c'est la vie. Ça, c'est l'Eikar. Bon. Et Dr. Bressi, il ajoute, quelle est sa vie? Il est Mahol, c'est une mitzvah. Un juif Mahol, c'est une mitzvah. Et quel sera le din s'il n'est pas Mahol? Il y a quelqu'un m'a téléphoné, il m'a posé une question. Il y a une certaine ville en France où ils font un mariage. Ils font un mariage à 10. Et il y a 9 personnes. Et le 10e, c'est un juif qu'on n'a pas fait la mila. Un juif assimilé qui n'est pas maroul. Est-ce qu'on peut mettre sa ref le minyan? Mais attendons, là, qu'est-ce qu'il raconte? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais un choupa n'a pas besoin de minyan. C'est un din la khatrila. Il m'a parlé de la choupa. Mais un choupa n'a pas besoin de minyan. Vimen shamasara, on peut aussi. N'importe quoi. On n'a pas besoin de 10. Pour les brachot, on peut faire la brachot sans 10 aussi. S'il n'y a pas 10, il n'y a pas 10.
Et pour le kadish, s'il y a un kadish.
Ah, kadish, c'est autre chose. Kadish, il faut 10, oui.
Alors, celui qui n'est pas Maoul, qui sait qu'il faut être Maoul, il a un din de Kofer.
Alors, il m'a dit qu'il y a un tchouba de Tashbet, c'est de Rashbat, je ne me rappelle pas quoi. que s'il n'est pas Mahoul Bemeizit, il se rébelle contre la mitzvah de Mila, on ne peut pas mettre sa ref le minyan. Si c'est Béchougeg, on peut. Alors il me demandait, ce juif assimilé, que peut-être il a peur de faire Mila parce que ça fait mal, est-ce que lui, il a un dîne de Meizit ou Shogeg? Moi, je lui ai répondu, est-ce que Bechlal, on a parlé à ce juif pour lui expliquer la grandeur de mitzvah de Mila? Est-ce qu'on lui a parlé? Tant qu'on ne lui a pas parlé, Vadaï, ce n'est pas un dîne de Meizit. Meizit, la question de savoir Meizit ou pas, c'est pas s'il ne connaît personne lui expliquer la grandeur. Vadaï, ce n'est pas Shayach de parler Meizit. Vadaï. Bechlal, il m'a parlé pour un mariage. Mariage, on n'a pas besoin de 10. C'est la Khatrila. Oui, la Khatrila, il faut 8, 10. Ou peut-être c'est même un Akev pour la bracha. Est-ce que c'est un Akev?
Non, c'est pas un Akev, Ariel.
Boaz, il a pris Asara Anashim. Oui? Oui, car Boaz, Asara Anashim. Il a pris, il réunit 10 personnes quand il se marie avec Ruth. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Minaï le Birkat Khatanim ba Asara. D'où je sais que Birkat Khatanim, il faut 10. D'accord. Alors, Birkat Asara, et si on n'a pas 10, on ne peut pas. Hey. Je ne sais pas de Shulchan Aruch ici. Hey. Le Rambam, il apporte cette halakha deux fois. Perek Yud Ishut, halakha Hey. Monsieur Bétan, d'où vous savez que ce n'est pas Ma'akev?
J'avais lu dans un kitsur.
Il dit que ce n'est pas Ma'akev.
Je recherche ça si vous voulez.
Hey, hey. Hey, Ishut, Yud, halakha Hey. והם מברכים ברכת חתנים אליה בעשרה גדולים ובני חורים וחתן מן המניין. זה משמע כזה מעכב. ואין מברכים ופפה לברכה דברכת חתנים כה וגדי פרסון גדולים ובני חורים וחתן מן המניין. לא, לכאורה ופפה דברכה. לכאורה ופפה. אין מברכים ופפה סייפדיס. ילדיפה לרמב״ם מצווה לברך. Ba'asara. Il y a une mitzvah de réunir 10. Et si on ne peut pas, on peut dire, bon, ben, diabat, c'est valable. Il dit non. En mevarachim, birkat, elle est ba'asara. L'engagement, je que c'est ma'akev. Si on n'a pas 10, on ne peut pas. Birkat chatani, mais est-ce que c'est birkat erosin ou birkat nisuin? De quel bracha il fait? C'est birkat chatani, mais c'est birkat nisuin, mais ce n'est pas birkat erosin. Birkat erosin, mais c'est un peu. Et s'il n'y a pas 10, on ne peut pas dire que Tratonem. Alors, il est Asura, on dit Kala Belo Bracha, Asura le Baala Kenida. Une Kala, une Arusa, si on n'a pas fait Nisuin, elle est Asura le Baala son la Bracha. Kala Belo Bracha, Birkat Khatanim. Donc, s'il n'y a pas 10 dans la ville, on ne peut pas se marier, elle est toujours interdite. Alors, un juif qui est au fin fond de Sibérie, mais il y a deux juifs qui sont là pour être des Haïdim pour Kiddushin. Mais on n'a pas 10 personnes pour faire Birkat Khatanim. Elle est toujours Asura. Ah, ça veut dire Khumra Atsuma, ça. Qu'est-ce que c'est ça? Kala Belo Bracha Asura le Baala Kenida, le Asumi de Rabbanan.
C'est la prochaine halakha, non? Dans le Rambam, là.
Amare, c'est Aisha. Un homme qui fait Erosin ou Birkat Khatanim. Il a déjà fait Birkat Khatanim. Velo Nitechedim Obetua, Dain Arusa. שאין ברכת חתנים יעשה בנישואין לכניסת חופה, אירס וכניס לחופה ולא בירך ברכת חתנים, הרי זו נשואה גמורה, וחוזר מברך אפילו אחר כמה ימים. יפפר פלוטר ולא תינשא נידה עד שתטהר. ואין מברכים לברכת התטהר. מאתון, כסקי של הפרושן ההלכה. Et si on ne fait pas Birkat Khatanim, est-ce qu'elle est permise ou interdite? Si on n'a pas fait Birkat Khatanim, elle indigne de Nessoua, c'est-à-dire que si elle va mourir, il va hériter l'argent. Nessoua, le mari, il hérite, elle est Nessoua. Oui, on peut faire le Birkat Khatanim après quelques jours, mais entre-temps, il ne peut pas vivre avec elle. Mais entre-temps, Kalab le Bracha, Sura la Bala Kenida. Alors, dans une ville où il n'y a pas 10 juifs, on ne peut pas faire mariage. Dans ces légendes sur Shlomo HaMelech, vous avez lu les légendes sur Shlomo HaMelech? sa fille, elle était sur une île avec un jeune homme, tout seul. Toutes ces bêtises-là que les Arabes ont inventées. Ouais.
C'est un kitsour qui s'appelle Anesum Kalaha. Oui. Il y a marqué comme ça, hein, je vous dis ce qui est marqué. Bemakom she'en sham asara anashim, bebirkat irusin, mevarim bepachot me'asara, va bebirkat nisuin, en mevarim bepachot me'asara.
Exactement ce que j'ai dit, vous me confirmez. Vous confirmez ce que j'ai dit, que birkat irusin n'a pas besoin de 10, birkat chatanim, il faut 10.
Bediouk, ouais, exactement.
Alors je demande, dans une ville où il n'y a pas 10 personnes, qu'est-ce qu'on fait? Peut-être c'est les permises. Peut-être il y a un mitzvah de faire une bracha et les asura, mais si c'est anus, peut-être c'est permis. Il ne peut pas faire la bracha, donc c'est anus. Donc il n'est pas tour de faire la bracha. Quand on dit kala belo bracha, asura le baal akinida, peut-être ça c'est seulement s'il y a une possibilité. S'il y a une possibilité, c'est asura. Mais s'il n'y a pas de possibilité, peut-être on n'est pas tour de cette bracha. Ça c'est possible.
Et si on fait kedushim avec Bia, alors comment ça se passe? Il faut 10 personnes? On n'a jamais entendu qu'il faut 10 personnes.
Non, non, ça c'est avec deux. Et là-bas, et puis il y a Erosine, il fait. Mais après, il est Asura pour la deuxième Bia. Il fait une Bia, le Shem Erosine, ça on peut faire. Bon, on reçoit un Malkout, c'est autre chose, parce que c'est un Chutzpa. Donc on reçoit des Malkout pour ça. Mais les Kedushin sont valables. Les Kedushin sont valables, mais ça c'est pour une fois. Après la deuxième bia, elle est asura, donc on n'a pas fait birkat chatanim. D'abord, fait deux edim qui rentrent dans la chambre. Bah, les deux edim ne vont pas la bia. Il dit qu'il fait des kiddushin avec bia. Il dit devant deux edim, hariat me kodesh et libi bia zou que je vais faire. Et après, il fait la birkat erosin, il rentre dans la chambre et il fait un bia avec elle. Et ça, c'est considéré comme des témoins. Donc, on n'a pas obligé des témoins d'entrer. C'est ça.
Rabbi Hesh, peux me permettre?
Oui.
Il dit comme ça après. Bemedina she enba asara anashim me Israël. Aim mutar la aroch ba nisuim mi beli she ibarechu birkat anisuim. Yesh min aposkim she metzadad lomar she bemikreze lo yarechu nisuim. Ulam arbe poskim sovrim she en abrachot me akevot et atanisuim.
Hazak baruch. Donc, je vois que la question que j'ai demandée, elle était déjà discutée depuis longtemps, quoi. Ouais. Qui c'est le Harbe Poskim? Qui c'est le Harbe Poskim qui permet?
30 secondes, je regarde. Trouma ta déchaîne.
Ouh.
Beshem Shuvat Morenu Shimshon Ben Avraham.
Ah, ça, c'est des gros calibres. Trouma ta déchaîne, Rabbi Shimshon Ben Avraham. C'est le Harbe Poskim. Shuvat Maimonide
Ishut.
Quoi?
Shuvat Maimonide Ishut Samer.
Bon, d'accord, ça, c'est du gros calibre, c'est, on n'a plus besoin de discuter, c'est bon. Donc, on peut se marier en Sibérie. D'accord, si on ne peut pas faire la bracha, on n'est pas tour. D'accord. Besséder. Alors, on va continuer. Qui c'est ce livre que vous avez lu, comment il s'appelle? Qui est-ce qu'il a écrit? Alors, on va continuer. Vimet Yanichuhu. Alors, si on l'a trouvé mort, on le laisse. On ne déplace pas la pierre. La Gemara nous demande, Hanam et Pshite. Alors, c'est Pashut. Pashut qu'on le laisse, parce que Vada, il est mort, il est Mouktse. Et donc, s'il est mort, il n'y a plus rien à faire. Il y a une vieille question. Elle a une barbe blanche, cette question. C'est marqué dans la Mishnah que si on regarde à côté du nez, s'il n'y a plus de respiration, on le laisse là-bas. Alors, on pose la Kushia à. Mais aujourd'hui, on le sait, souvent, il n'y a plus de respiration. Et on fait une bouche à bouche avec massage cardiaque, on peut le sauver. Alors, quel est le pshat de la Mishnah? Pourquoi on le laisse là-bas? Pourquoi on ne fait pas sortir pour faire essayer des bouches à bouche? Peut-être qu'il ne savait pas faire ça. Peut-être à l'époque de la Gemara, on ne connaissait pas cette technique. Donc, comme on ne connaissait pas cette technique, donc, si on ne connaît pas, on n'a pas le droit. Mais si aujourd'hui on connaît la technique, mais on peut le faire sortir.
J'ai entendu qu'il y a des gens qui demandent de ne pas être enterré avant 48 heures. Parce qu'on ne peut pas être sûr vraiment.
C'est une Tosefta. C'est une Tosefta. Mm-hmm. C'est marqué dans la Tosefta, mais Fakdim et Ameitim Beyom Ashlishi. On va les premiers trois jours, on va sur le kever de mort pour écouter s'il crie. Parce que peut-être on se trompait. Il y avait une coutume comme ça à l'époque de la Gemara. Il me semble que c'est marqué. Alors pourquoi tu enterres? Parce que selon ce que nous voyons, il est mort. Alors pourquoi tu le visites après? Parce que peut-être on s'est trompé. Alors si tu t'es trompé, alors nous n'enterrons pas. Non, parce qu'il est 99,99%, il est mort. Donc on enterre. Mais il y a une chance, 1 sur 0, qu'on se trompe. Donc, on fait quand même une Uma Asebe Echad. Et il y a une histoire chez un qui était enterré. Le troisième jour, il a crié, il en sortit vivant. Comme ça, il me semble marqué dans la Tosefta. Alors, on va continuer. Mais la Mishnah nous dit que si on voit qu'il ne respire pas. À l'époque de la Gemara, s'il ne respirait pas, il y avait rien à, on ne savait pas quoi faire. On ne pouvait rien faire. Mais aujourd'hui, si on peut faire, mais c'est un peu...
On n'a pas peur de l'être sauvage et que le corps soit abîmé, des choses comme ça, si on le laisse.
Bien entendu.
On n'a pas peur que le corps soit abîmé par des bêtes sauvages ou autres, si jamais on le laisse.
Ah, ça, c'est le prochain morceau de Gemara.
Ah, d'accord.
Alors, là aussi, vous étiez 10 mois. Là. Alors, où nous sommes? 8 mètres, Yanichouhou. On va continuer. 8 mètres, s'il est mort, Yanichou, on le laisse. Hanam Pshite. Voilà, c'est pas chouette qu'on le laisse. Quel est le chidouche? L'Otsricha, le Rabiou de Ben Lakish. Le chidouche, il est le fils Rabbi Yehuda ben Lakish. Qu'est-ce que dit Rabbi Yehuda ben Lakish? On a vu, on ne peut pas sauver les morts dans un incendie. Am Rabbi Yehuda ben Lakish, Shemati, moi j'ai entendu, Shemati, on peut oui sauver les morts d'un incendie. Alors, donc j'aurais pu croire que si devant un incendie on peut sauver, on peut peut-être sauver aussi qu'il est sous un éboulement. De la même façon que lui dit qu'on peut déplacer les morts d'un incendie. Donc on peut déplacer. Alors peut-être on peut déplacer le corps pour le faire sortir sous les décombres. Alors la loi dit non. Fil Rabbi Yehuda ben Lakish lo kamal mitor shadam ba'ul al mito ilo charit et atel chibouye. Toute la raison qu'il peut déplacer, c'est pas stam on peut déplacer le mort. C'est parce qu'il y a un incendie. Si tu ne permets pas de déplacer, l'homme il va pas résister. Et il va éteindre le feu. Mais ici, il a charité, mais il est le si on ne lui permet pas de déplacer, il ne va rien faire. Il ne va rien faire. Il ne va pas s'apurer. Et donc, il n'a pas le droit de déplacer. Maintenant, vous posez la question. Et si on a peur que quoi que les bêtes sauvages vont venir, mais comment les bêtes sauvages ils vont rentrer sous l'éboulement? Ça, on ne craint pas. Il y a peut-être un souris, ça, pour ça, on n'a pas le droit de déplacer.
C'est-à-dire, on a enlevé la pierre, donc le corps est visible. On a enlevé quand même pas mal de pierres, donc une partie du corps est visible au moins.
Oui, on a enlevé jusqu'à la bouche, jusqu'au nez,
oui.
et on a vu au nez que quoi, qu'il ne respire pas, donc il est mort, donc on laisse comme ça, jusqu'à Motsé Shabbat. Maintenant, il n'y a plus rien à faire.
D'accord.
Comme chaque niftar, un homme qui est niftar. Mais si quelqu'un est niftar dans un lit, c'est marqué on le met par terre parce qu'il faut mettre où c'est froid. Mais comment on peut le mettre par terre? Il faut le faire indirectement. Est-ce que kikarotinak ou on enlève le matelas lentement pour les... Ça, c'est le souga de Mesechat Shabbat. De quelle manière un niftar sur un lit, on le met par terre? Il faut le mettre par terre si le par terre n'est pas chauffé. Le par terre, il est froid. Alors, on le met par terre, mais comme on ne le met pas directement, on n'a pas le droit de mettre par terre. Il faut retirer le matelas avec un deuxième matelas, un troisième matelas, lentement, lentement, pour le faire glisser par terre, il me semble. Mais si le par terre, il est chauffé, on n'est pas sorti de l'auberge, dans les HLM et compagnie. Aujourd'hui, ils mettent du gaz carbonique, ça s'appelle gaz carbonique, ça s'appelle Hervé. Oui. Qu'est-ce qu'on met aujourd'hui? Gaz carbonique, c'est un truc qui est froid ou quoi?
C'est de la neige carbonique.
C'est froid et ça garde le corps.
Neige carbonique.
Ouais. Ça garde le corps, ça conserve.
C'est très froid ou quoi?
Oui, mais déjà, on le met sur une porte. On enlève une porte, on met la porte par terre, on le met sur la porte pour ne pas qu'il soit à même le sol.
Et on met des paquets, de neige carbonique sur l'ensemble du corps.
Au-dessus ou en dessous?
Au-dessus.
Et si, mais il faut livrer d'abord. Si c'est Shabbat, on ne peut pas se faire livrer.
Un goy.
Mais on a le droit par le goy?
Ah, je ne sais pas.
Est-ce qu'on a le droit de...
C'est pour le mort qu'il apporte, pas pour nous. Il a droit.
Bani.
Et en plus, s'il n'y a pas le ça, ça peut être une catastrophe. Hein.
Quoi?
Il n'y a pas ça, ça peut être une catastrophe.
Je n'entends pas.
S'il n'y a pas ce truc carbonique-là, ça peut être une catastrophe, j'ai dit.
Mais on a quelques heures s'il ne fait pas trop chaud.
Non, mais imaginez tout le Shabbat.
Jusqu'au soir, je crois que c'est déjà arrivé, il n'y a pas eu de problème.
Mais imaginez un homme, il est décédé, une personne est décédée vendredi soir, c'était Shabbat, il doit rester comme ça jusqu'à dimanche. C'est impossible.
Met Moutal. Alors, Met Moutal, s'il y a un incendie, si un enfant a un morceau de pain, on met dessus, on le truc. Et s'il y a deux lits, on est doucement d'un lit à l'autre jusqu'à qu'il est par terre. On peut faire un isodrabanan. S'il est dans une maison et ça sent mauvais, alors, et c'est proche de sentir mauvais, on peut le faire sortir même au carmélite. On peut faire un isodrabanan. Ça, c'est la chéla. Est-ce qu'on met dessus un pain ou pas? Oui. On peut le faire sortir dans un carmé. On peut faire via un chilul Shabbat. Midrabanan. On peut faire un isodrabanan, mishum kvodo. Et on peut demander à un goy de déplacer. Ah oui. On peut dire un goy déplacé. Chazak ou baruch merve. Donc on peut dire un goy déplacé. Donc on peut dire aussi un goy d'apporter la neige carbonique. Oui, chazak. Et le goy n'a pas besoin de kikarotinot. Alors on va continuer. Tano rabbanan. Adheichan bodek. Jusqu'à où on fait la vérification. Ad chotmo jusqu'à son nez. Il faut dégager le nez pour voir s'il respire. Ve'eshomrim adlibo. Il y en a qui disent jusqu'au cœur. Parce qu'il faut prendre le pouls, non? C'est ça? Il faut mettre la main sur le cœur pour savoir s'il respire, si le cœur y boite. Badak. S'il a vérifié. Umatsa elyonim etim. Il a vu les gens en haut, ils sont morts. L'Oyomar, il ne doit pas dire Kvar metua tachtonim, donc ceux qui sont en dessous sont aussi morts. Maase, il y avait une histoire, Maaseya, Matsu Elyonim etim, tachtonim chayim. Il y avait une histoire, on a trouvé ceux qui étaient en haut, ils étaient morts, et ceux qui étaient en dessous, ils étaient vivants. Neema hanetanaï ke hanetanaï. Est-ce qu'on va dire que c'est Tanaïm dépend une autre machloket Tanaïm, de Tanya. Mechana vlad notzar. D'où commence la itzira de l'enfant? Ça veut dire du fœtus. Mirocho de la tête. Shenemar mi meyei imi ata gozi. Depuis le ventre de ma mère, toi tu es gozi. C'est quoi gozi? C'est quoi gozi? Protecteur, c'est quoi gozi? Ata tu es gozi. C'est quoi gozi? Tihilim ain aleph. Tehilim Ain Aleph.
Couronne, je crois.
Hein?
Couronne.
Gozi, c'est couronne. Pourquoi? Pourquoi Gozi, c'est couronne? On va voir qu'est-ce que c'est Gozi. Mimeye imi ata Gozi. Atamotsi, Rashi, atamotsi, umaviri. Kmo vayagoz salvim. Transporté. Vayagos, Rachidi, transporté. Gozi, transporteur. Vayagos, alvim, transporté. Kotsa, sortir. Le Mitsudot, il dit, Vayagos, il a sorti. Atas, tu m'as sorti. Gozes. Ça vient du mot gozes. Gozes, c'est tendre la laine, couper la laine du corps. D'accord? Bon, alors maintenant, qu'est-ce que la Gemara veut? Avlad notzar mirosho, le début de la tira du Vlad, c'est de sa tête. Shenemar mimeye imo ata gozi, veomer gozi nizrech, vehashlichi. Gozi nizrech, coupe tes cheveux, nizrech c'est les cheveux, nazir, le nazir qui a les longs cheveux. Gozi nizrech, coupe tes cheveux, vehashlichi et jette. Abba Saül omer, Mitiburo, il commence à partir du nombril. Ou Meshaleach, Shoroshav Eilech Veilech. Et à travers le nombril, la nourriture entre et l'on voit ses racines à gauche et à droite. C'est-à-dire le corps se développe à partir du nombril. Et alors, qu'est-ce que la Gemara veut? Que quand il meurt, il faut vérifier. Un, il dit qu'il faut vérifier le cœur. Le cœur est à côté du nombril. Un, il dit qu'il faut vérifier le nez, parce que ça commence, c'est-à-dire d'après lui, la vie commence par la tête, donc la vie termine par la tête. Et l'autre dit, la vie commence par le nombril, donc il termine par le nombril. Donc on vérifie le cœur. Et quel rapport avec le début et à la fin de la vie? Quel rapport? Rashi, c'est une gemara un peu codée là. Rashi, atchotmo, on vérifie jusqu'au nez. Vim en chiyut bechotmo, s'il n'y a pas de vie dans le nez. Il est mort. Non, il n'y a pas d'autre. Bon, on va arrêter ici. On va voir ça demain. Alors, Koltouf.